Maintenant, nous allons passer au baccalauréat 2009 avec nos deux jeunes journalistes, Clotilde et Axel.
Les mains moites, le cœur serré, la boule au ventre, près de 500 000 lycéens vont plancher pendant 4 heures sur la première épreuve redoutée du bac, la philo. Peut-on mettre sur le même plan le commerce des choses et le commerce des idées ? L'art est-il nécessaire ? Autant de questions profondes pour une épreuve unique en Europe. Dans la tradition de Montaigne, il s'agit d'avoir un esprit sain dans un corps sain.
Aujourd'hui, le 18 juin, les épreuves ont donc enfin commencé. Les épreuves anticipées commencent demain. Les épreuves durent 5 jours et les résultats seront donnés le 7 juillet. Et pour finir, quelques chiffres.
Sur 500 000 bacheliers, 21% obtiennent le bac pro, 53% le bac général et 26% le bac technologique.
Le plus jeune à passer le bac cette année est âgé de 13 ans et 3 mois et le plus âgé de 78 ans et 7 mois. Bon stress à tous.
Maï et Julien vont nous parler du procès Courgeot qui se passe en ce moment au tribunal de Tours.
Effectivement, hier soir, l'avocat général Philippe Varin a demandé une peine de 10 ans de prison contre Véronique Courgeot après un réquisitoire de près de 3 heures.
L'accusé a enfin avoué ses crimes. 3 infanticides de nouveau-nés entre 1999 et 2003. Elle a déclaré ne pas vouloir de ses enfants et d'être dans l'incapacité de les élever, par peur de ressembler à sa propre mère.
Elle a tué et brûlé le premier de ses enfants non désirés et a congelé les deux autres pour les conserver. Elle a aussi déclaré qu'elle a eu l'impression de tuer une partie d'elle-même.
Elle laisse donc derrière elle les deux enfants, de 12 et 14 ans et son mari. Ceci et les proches de Véronique Courgeot avaient apparemment remarqué qu'elle prenait du poids au moment qui correspondait à ses grossesses, mais ne se doutaient pas qu'elle était enceinte. Selon Philippe Varin, quand on ne sait pas, on ne voit pas.
Cependant, ce dernier ne croit pas à un déni de grossesse et essaie de prouver qu'elle était consciente de ses actes dès le troisième mois. Les déclarations de la coupable à ce sujet sont effectivement confuses. C'est pour cela que Philippe Varin a demandé que les responsabilités de la coupable soient atténuées.
Maintenant, nous allons parler du projet de loi sur le port de la burqa qui fait débat à l'Assemblée. Nous rejoignons nos envoyés spéciaux, Mehdi et Ryan.
La burqa mise en sursis par les députés français. Le député maire de Vénissieux, André Guérin, aussi membre du Parti communiste français, a déposé une proposition afin de créer une commission d'enquête parlementaire sur le port par des musulmanes de la burqa qui est un voile qui les recouvre entièrement et du niqab qui laisse entrevoir les yeux. 58 députés en majorité de droite ont participé à la rédaction de ce texte. La vision de ces femmes emprisonnées nous est déjà intolérable lorsqu'elle nous vient d'Iran, d'Afghanistan ou d'Arabie Saoudite. Elle est totalement inacceptable sur le sol de la République française, considère André Guérin.
La France est un État laïque. Selon la loi, il est interdit de montrer ouvertement ses opinions religieuses ostentatoires. La polémique n'a pas fini de faire parler d'elle.
Maintenant, la page scientifique avec nos deux experts, Adil et Sénat.
Merci. Les autorités sanitaires françaises devraient probablement alléger le dispositif contre la pandémie de grippe A, H1N1, en ne recourant plus à des hospitalisations systématiques. Une réunion est prévue aujourd'hui au ministère de la Santé avec les experts et les responsables des hôpitaux. Le professeur François Bricaire, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Piété Salpêtrière, estime que si le plan a été parfaitement efficace, il faut sûrement l'adapter en l'allégeant vu la bénignité à ce jour de la grippe A. Au passage, pour ceux qui n'auraient pas leur dictionnaire de poche ou qui sont fatigués rien qu'à l'idée de prendre un dictionnaire, la bénignité signifie un acte sans gravité. Mais il n'est pas logique actuellement d'hospitaliser des personnes qui n'ont pratiquement rien et de fermer les établissements scolaires. C'est la crédibilité de tout le système qui est en jeu.
Maintenant, un point sur le climat.
Merci, Mehdi. Donc, je vais vous parler de l'histoire du climat caché dans la cellulose des arbres. La connaissance du climat des siècles passés en France progresse de façon remarquable. Une équipe des laboratoires des sciences du climat et de l'environnement, LSCE, basée de Gif sur Yvette, vient de reconstituer les températures moyennes au printemps et en été dans la région Fontainebleau de 1596 à nos jours. Les recherches menées par Nathalie Etienne et dirigées par Valérie Daud ont permis de montrer principalement trois choses. Premièrement, il y a eu des périodes de réchauffement, mais on ne le savait pas avec autant de précision. C'est ainsi que la température a augmenté en moyenne de 1,8 degré entre 1674 à 1684. Deuxièmement, il n'y a eu jamais dans le passé une aussi longue période d'augmentation des températures que celle des Météo France enregistrée depuis 1980. Troisièmement, toutes les températures estivales relevées avant la Convention météorologique mondiale de 1950 ont tendance à être surévaluées de 1 degré. Donc toutes ces recherches nous ont permis d'étudier avec précision l'évolution du climat.
La page sport maintenant va nous être présentée par Axel et Franck, les deux sportifs de l'équipe. C'est parti les gars.
Pape Diouf quitte l'Olympique de Marseille. Pape Diouf a été démis de ses fonctions par Robert Louis Dreyfus. Il a décidé de ne pas maintenir sa confiance à Pape Diouf. Robert Louis Dreyfus, propriétaire de l'Olympique de Marseille, a décidé de se séparer de son président. L'éviction Pape Diouf, en fonction depuis près de 4 ans, provoque déjà la colère des supporters. Pape Diouf était le seul président noir d'un club européen. Son bilan sportif et financier était plus qu'honorable, ce qui a provoqué la démission de Pape Diouf, et qu'il y a eu une guerre inutile entre Vincent Labrune, président du conseil de surveillance, et lui. Après un peu plus de 4 années passées à la tête de l'OM, Pape Diouf entre dans la moyenne haute des présidents en termes de longévité.
Le Real. Pour financer les transferts de Kaka et de Cristiano Ronaldo, les Madrilènes ont déjà emprunté 153 millions. En France, le Real de Madrid jouerait probablement en CFA. Endetté à hauteur de 600 millions, le club aurait été rétrogradé par la Direction nationale du contrôle de gestion. Le PSG. Le président du Grêmio Porto Alegre, Duda Kroff, s'est indigné mardi du montant demandé par le Paris Saint-Germain, 2 500 000 euros. Le transfert définitif du milieu brésilien Wilami Zueza, actuellement prêté par le club français.
Maintenant, passons à la Fiorentina. Sidney Govou a annoncé il y a quelques semaines qu'il n'était pas certain d'être lyonnais la saison prochaine. Les envies d'ailleurs ont apparemment été entendues. La Fiorentina ferait le forcing actuellement pour récupérer le tricolore à un an de la fin de son contrat.
Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à un peu de météo avec notre Miss David. Et ne vous trompez pas, c'est un homme.
Mesdames, messieurs, bonjour. Voici la météo de ce jeudi après-midi. Donc, il y aura des arrivées nuageuses par l'ouest. Des nuages peuvent donner quelques gouttes dans l'après-midi. Et les températures seront environ de à peu près 25 degrés sur Tours. Pour demain après-midi, après un passage faiblement pluvieux dans la nuit, le ciel s'éclaircira en début de matinée et le soleil reprendra sa place jusqu'en soirée. Demain matin, environ 12 degrés. Demain après-midi, 22 degrés.
Merci à toi, ma chère David. Et maintenant, pour moi, c'est la fin. Il est temps de vous dire au revoir et je vous prie de nous excuser pour tout ce qui aurait pu se passer, pendant l'enregistrement. On est novice, donc c'est la première fois. Et vu ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense que ce sera aussi la dernière. Alors, je vous dis au revoir et profitez bien votre journée.